Fait que, Amy, ton banc de neige, la fonte, comment ça se passe?
Ben la fonte se passe très, très bien quand même. Là, c'est assez impressionnant. Il en reste encore.
Ah oui?
Il en reste encore en masse. Attends. C'est un banc de glace.
Oui. De la glace noire, tu sais, là, avec des petits picots bruns, puis tout ça.
Ah,
là. Puis
ben de la garnotte,
ah,
je te dirais.
C'est ça.
Ouais, ben de la garnotte. Et là, j'ai découvert que j'ai comme un microclimat dans ma cour.
Ah,
Donc, en avant, où est-ce qu'il y a moins de soleil, mes beaux personnages sont sortis.
Ah, wow.
Magnifiques, des belles fleurs mauves. Le pire là-dedans, c'est que j'ai planté un bulbe il y a 2 ans qui n'a jamais sorti, puis là, il y en a 3.
Juste quand tu t'en vas.
Et en arrière, c'est pas les personnages, c'est les pissenlits.
Ah, oui. Déjà?
Oui, ben
déjà,
oui, ben oui.
J'ai jamais vu ça aussitôt.
Ils sont en feu?
Ah oui, c'est terrible.
Non, Amy, s'ils étaient littéralement en feu, ça serait une excellente nouvelle. Ton chum se promenait avec un lance-flamme.
L'expression, Jay!
Écoute, moi, je suis content parce que ma neige est toute fondue, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais le gazon a déjà commencé à pousser.
Ah ben!
Il n'en fallait pas plus! J'ai acheté du gaz pour mettre dans mon tracteur à gazon et je suis prêt!
Et bonhomme!
Vous écoutez le balado
On est tous debout
avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay. Retrouvez-nous en direct en semaine dès 5h25
au 102.9 Rouge
et à rougefm.ca.
C'est un quiz télévisé à la radio. On fait les choses complètement différentes. On cherche des questions à mes réponses. C'est l'heure de s'amuser avec le quiz. Jeopardy! On accueille nos deux participants ce soir. D'abord, elle a hâte de retrouver son plancher de danse comme dans le temps, Émilie Gagné. Bonsoir!
Bonsoir!
Et quant à lui, on a appris ce matin qu'il a hâte de retrouver son plancher pelvien d'époque, Martin Brassard. Bonsoir!
Bonsoir, Jay!
Alors, le pointage est quand même serré. Tout est possible ce soir. Émilie, 13. Martin, 8. Mais c'est quand même Émilie qui choisit la catégorie du soir. Arrête tout de suite! Ben jamais! Tassez-vous sa part ou c'est-tu par là?
Je vais y aller avec Benjamin.
Benjamin, c'est une question pour 2 points.
Oh.
Alors, vous croyez avoir la bonne question à ma réponse, vous dites votre prénom et ça vous donne le droit de répondre. C'est un canal navigable situé
Émilie. Qu'est-ce que le canal de Panama?
Ce n'est pas la bonne réponse.
Est-ce que je peux répliquer tout de suite,
Martin, Jay? Vas-y.
C'est en Égypte, t'as dit, hein?
Oui.
Ouais, ah, alors, je le sais, c'est quoi?
Qu'est-ce que le canal de Suez?
Ben oui!
C'est une bonne question. Martin? Tu as 10, tu es en position de force présentement. Tu quittes ou tu doubles?
Je double, bien sûr.
Alors, les catégories restantes, arrête-tu tout de suite, tassez-vous sa part ou c'est-tu par là?
C'est-tu par là?
C'est-tu par là? Oh là là, question la plus difficile qui était normalement pour 4 points pour doubler pour Martin. C'est la capitale des Émirats Arabes Unis.
Oh!
Qu'est-ce que Dubaï?
Ben oui.
Ce n'est pas la bonne question.
C'est pas ça.
Ce n'est pas Dubaï. La capitale, c'est Abu Dhabi.
Oh!
Martin. C'est vrai, Dubaï, c'est la plus connue, mais bon, c'est pas la capitale.
C'est souvent ça.
Je viens de retomber à zéro, tu es en train de dire ça?
Tout à fait. Et là, Martin, encore une fois, ton plancher vient de faire défaut.
Non, mais c'est épouvantable. J'ai 3 bonnes réponses sur 4 dans les 2 derniers jours. Puis je me retrouve encore à zéro.
C'est ça, la beauté du quiz Jeopardy.
Moi, je fais rien, puis je mène pareil.
Mais gars, c'est ça. C'est ça qui est beau avec ce jeu-là.
Ah ouais.
On n'est pas à l'abri de rien. Le quiz Jeopardy, le pointage est de Émilie 13, Martin de retour à zéro.
Oh,
et la suite demain. Bon, votre chum s'en va dans la salle de bain, puis vous savez qu'il est disparu et indisponible pour une demi-heure.
Oh que oui!
Il y a des gars hein, qui veulent se réfugier et avoir la paix, puis qui s'en vont dans la salle de bain, puis qui exagèrent au niveau du temps que ça leur prend.
Non, jamais.
Mais moi,
trop de temps.
J'ai l'impression que c'est les gars qui font ça plus que les filles.
Absolument.
Ah oui.
Des longues minutes interminables.
Oui, c'est les gars, il n'y a pas de doute là-dessus.
Sur le bol de toilette, bien là, messieurs, faites attention à vous autres, hein, parce que c'est pas bon. Restez
Arrête
assis
donc.
Trop longtemps sur le bol de toilette.
Voyons.
En train de lire le journal ou scroller sur votre téléphone.
Lire le journal.
Ben oui, lire le journal.
Voyons.
Ça existe encore, un journal.
Il n'y en a pas tant que ça. Le téléphone est plus populaire.
En effet, il y a une chirurgienne qui s'appelle Madame Atkins, qui met les gens en garde contre cette pratique bien répandue qui est la pratique d'être assis trop longtemps sur le bol de toilette. Pourquoi? Parce que ça met énormément de pression sur le plancher pelvien. À la longue, ça peut conduire à une faiblesse des muscles de cette partie du corps. Bref, elle, c'est une chirurgienne. On s'entend pour dire qu'elle en fait des opérations. Puis le problème qu'elle doit régler, c'est, et attention, ceux qui sont en train de manger, c'est la descente des organes.
Non.
À un moment donné, là, c'est ton plancher pelvien, il est trop faible, puis bang, ça descend.
Hey, non!
Cauchemar!
Ben là!
Ben oui, cauchemar! Riposte pas drôle!
Mais moi, mes organes!
C'est la face de Martin Brassard!
Ben là, tu me fais peur!
Nos organes sont bien par-dessus le plancher pelvien?
Ben oui, c'est ça. Alors, faut faire attention. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça se fera pas si t'es jeune, nécessairement, mais en vieillissant.
Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que j'ai encore plus peur. Écoute!
Martin, fais attention à chaque éternuement.
Je fais ça depuis 40 ans, moi, là! J'ai le plancher pelvien fucké ben raide!
Va falloir que tu refasses ton plancher avec de la belle céramique parce que je pense que là, ton plancher flottant est en train de s'écailler.
Tu vas tout juste faire des petits exercices, Martin. Je vais t'en montrer.
Ah, j'en connais ça. J'en
ai plusieurs.
Ah oui!
Ça, c'est une autre histoire. Okay. Ben, continue, Émilie.
Ben moi, j'ai fini. Je sais pas pour vous.
OK.
On a du temps pour en parler, Martin.
Moi aussi, j'ai fini. Et que la musique est bonne à rouge.
Hein? C'est fou, hein? Ah, c'est tellement plaisant. Écoute, on va parler de plein de choses, mais pas du plancher pelvien de Martin Brassard dans les prochaines minutes. C'est litigieux avec Pat Lavoie. Ça commence bien, mais ça tourne mal. Pat, tu vas tester nos connaissances sur une série qui ne laisse pas indifférent, Game of Thrones, même si c'est fini.
Ben, en fait, c'est fini puis pas, Jay, parce que il y a une série dérivée qui est tournée cette année, qui devrait sortir en 2023, possiblement. Okay. Un peu comme Star Wars. Vous savez qu'on a fait des dérivés sur plein d'autres personnages.
Ouais.
Ça ne finit jamais de finir. House of the Dragon.
OK.
Mais surtout parce que le premier épisode est sorti en avril 2011, il y a déjà 10 ans sur HBO.
Hey, 10 ans de Game of Thrones. Ouais.
Et ce que ça a permis de rendre accessible, de démocratiser, c'est que c'est une série qui a rendu les livres plus accessibles. Et on se posait la question, pourquoi ça a touché tant les amateurs? Il y a du sexe, il y a de la romance, il y a un peu de politique et surtout beaucoup de morts.
Ah oui, ça laisse pas indifférent, ça.
Moi, c'est une série que j'ai écoutée par intermittence, mais j'ai appris quelque chose, par exemple.
OK.
Tu t'attaches pas au personnage.
T'as pas le temps.
Il y a juste le petit nain qui est jamais mort, je pense.
Oui, mais il s'est rendu loin, c'est vrai, loin dans la série.
Je peux pas te confirmer s'il est vivant ou pas, là, mais en tout cas, Jon Snow, il est mort une couple de fois, il est revenu. Là. Mais ceci dit, c'est quand même... On dit même, d'ailleurs, selon le USA Today, que quand t'es personnage dans Game of Thrones, de 14% de chances de mourir dans la première heure.
Ça, c'est des statistiques pas très reluisantes.
Oui. Fait que le cachet est plus court, mais tu sais, il faut dire que, considérant le nombre de monde qu'on embauche, on peut comprendre.
Non, c'est ça.
La moyenne de spectateurs par épisode lors de la saison 7 était 32,8 millions.
Ah, ouais, OK.
Les 6 derniers épisodes coûtaient 16 millions chacun.
Ah, ouais.
Et c'est la série à ce jour qui est la plus piratée.
Ah oui? Okay.
Mais malgré ça, ils ont fait des profits incroyables.
Ah oui, on n'est pas inquiet pour eux, n'est crainte. Et les reprises, c'est un peu comme La Petite Vie ici au Québec.
C'est encore fort, hein?
19 millions de personnes regardent des
reprises. C'est immense! Ouais.
Et parmi les milliers et les milliers de morts dans de nombreuses saisons, il y en a seulement deux qui sont morts de cause naturelle.
C'est intéressant, ça!
Vous remarquerez que c'est rare que vous voyez des gens avec des cheveux blancs là-dedans ou des... Bah, tu sais, il y a peut-être un vieux sorcier ou deux qui se cachent.
Il n'y avait pas le temps de se rendre.
C'est ça. À part les méchants, là, où, qui étaient tout blancs, eux autres, là, qui n'avaient pas d'air en santé, qui manquaient un peu de fer, là.
Ouais, ben, ils habitaient dans le nord, hein, fait que...
Ouais, c'est ça. Emilia Clarke touche 1,1 million par épisode. En plus d'un pourcentage non précisé sur les ventes de DVD et produits dérivés. Ils vont quand même à 50 millions. Les perruques, parce qu'on s'entend que je ne suis pas sûr que c'est ses vrais cheveux. Là.
Non.
Ça coûte 7 000 $ chaque.
C'est quelque chose.
À chaque perruque?
Ouais, chaque perruque coûte 7 000 $ des différents personnages. Et Game of Thrones, à ce jour, figure toujours dans le livre des records Guinness pour le plus grand nombre d'Emmy Awards pour une série avec 47 trophées.
Ça va être dur à battre. Hein?
Sur 123 nominations. Fait qu'ils ont une moyenne d'un sur trois. Je te dirais qu'au baseball, quand tu checkes ça, ça fait quoi? 333, Jay, tu connais ça?
Ouais.
C'est quand même pas mal. Ouais. On peut jaser avec eux autres là, aisément.
Hey, on est certainement loin des salaires de nos acteurs québécois avec les pays d'en haut, j'en suis convaincu. À 1,1 million par épisode, hey, ça fait cher du mot.
Ah, mais il y a des reprises, peut-être.
Il y a des reprises. Et rappelle-toi les gens de Passe-Partout dans les années 70.
Ils étaient sous-payés. Hein?
Sous-payés, puis ils n'ont rien eu pour les reprises. Et combien de fois on a usé ça du côté de Télé-Québec, Feu Radio-Québec?
Ouais.
Je pense que Marie-Équelle et compagnie seraient millionnaires aujourd'hui.
Absolument.
Mais la star, t'es payé, t'as quelque chose pour les reprises.
Ouais, oui, mais dans le temps, c'était pas ça.
J'ai un ami qui travaille pour les gags juste pour rire.
OK.
Puis lui, tu sais, c'est un été de tournage, des demi-journées une fois de temps en temps pour s'installer à moitié flambant nu dans un frigo pour faire peur au monde, tu sais. La job, c'est pas si dur que ça. Mais c'est quand même pas pire payant parce que cette émission-là est retransmise partout à travers le monde parce que ça parle pas. Puis aujourd'hui, heureusement, les acteurs sont mieux payés pour être à moitié flambant nu dans un frigo. Alors, tu sais, il y a des bons côtés à ça quand même. Ben merci, Pat, de nous en apprendre davantage. Si nous, on était payés 1,1 million par épisode, je te confirme que on aurait du budget pas mal plus puis des feux d'artifice pour Pat Lavoie.
Mais... on en ferait des podcasts, fais-vous en plus.
Ah, le télétravail, hein. On pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, le télétravail.
Non.
Et là, ben, on est en train de réaliser que dans de nombreuses entreprises, le télétravail risque de survivre au-delà de la pandémie. Mais là, c'est avec grand regret qu'il y a des gens qui aimaient l'ambiance de bureau, qui se sentent un peu dépourvus et s'ennuient de ça. Et c'est là qu'arrivent deux grands artistes du nom de Cathy Fakada et Gérard Thibault qui ont décidé de faire un nouveau projet. En fait, eux, c'est des parfumiers et ils se sont spécialisés dernièrement dans les chandelles. Il y a une folie des chandelles à travers le monde.
Ah oui, ça c'est vrai.
Ici, on est tous debout. On en a parlé de la folie des chandelles. Habituellement, quand on pense aux chandelles, on pense à des odeurs qui vont être les îles tropicales, une chaude soirée d'été ou encore une soirée autour du feu, tu sais, des moments réconfortants. Mais on pense rarement au travail au bureau. Alors, c'est pour ça que eux, ils se sont dit, on va faire une sélection de 6 chandelles avec des fragrances qui vont rappeler aux gens le bon vieux temps de travailler dans un bureau.
OK, OK. Je suis curieuse de connaître ces odeurs-là.
C'est vraiment bon pour vous.
Sûrement le papier de la photocopieuse.
Exactement.
Ah, ben
il y a 96 pages chaudes sorties sur le côté gauche de l'imprimante.
Ça sent bon.
Ben oui, ça sent bon, des feuilles qui viennent se faire imprimer. Encore un autre qui m'a fait beaucoup rire, c'est... le gros rush de l'après-midi à la machine à café. L'odeur de
l'odeur,
café, ben oui, c'est sûr. Il y en a d'autres aussi qui sont un peu moins ragoûtantes, par exemple, la chambre 12F.1 après un atelier de 6 heures.
Ben, l'odeur de chaud, t'sais, l'odeur de monde qui a chaud dans la même pièce.
Exact, ça fait 6 heures qu'ils sont en train de penser qu'ils sont dans un lac à l'épaule, dans une petite pièce fermée. Là,
connaît ça,
On connaît ça. Quand tu rentres là, tu fais « ouf, ça sent l'esprit d'équipe ici ».
L'odeur du lunch de ta collègue là, qui réchauffe du pâteau au saumon?
Ben non, oui, il y en a un, ça s'appelle « Restant de sushi à la table à café » avec des fragrances de wasabi épicé et de nettoyant à table avec agrumes, hein, évidemment.
Ah, c'est bon.
Il y en a un autre, c'est « Happy hour un jeudi sur une table bistrot
». Alors, là, un petit peu d'alcool là-dedans, sûrement?
Ben oui, on nous dit qu'il y a des arômes de bas avec des notes de bourbon, et également de pince à papier et aussi de restant Cheetos. Tu sais, il y en a plein, ça me fait vraiment rire. Il y en a peut-être que je suis en train d'oublier, mais je veux dire, là, non, j'ai fait les 6. Alors ça, c'est disponible si ça vous intéresse. Vous avez tout simplement qu'à chercher la collection Eau d'office, comme de l'eau qu'on boit, mais d'office comme bureau. Okay. Eau d'office des chandelles, vous allez pouvoir en commander. Puis si vous êtes un patron d'entreprise, puis vous savez que vos employés travaillent très, très fort, puis qu'ils s'ennuient du bureau,
ben c'est un beau cadeau.
Mais oui, tu leur envoies ça par la poste. Ils sont contents. Hey, moi, passer mon avant-midi à côté d'une bonne odeur de paquet de papier qui vient de sortir dans l'imprimante, là, ça me réconforte, j'en suis convaincu. Toi, c'est pas long, ça prend 10 minutes, puis t'as fini ton assiette. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des options, bien honnêtement. le début d'une digestion commence par une bonne mastication.
Okay.
Et si on saute cette étape puis on y va à grosse bouchée, moi, je vais vous avouer, là, des fois, il faut que je le rappelle à ma blonde, Isabelle, qui nous écoute. Je l'entends avaler parfois, puis je dis, coudon, t'as-tu mastiqué un peu? Puis elle est comme, oups, j'ai oublié. Comment tu fais pour oublier? Il y a du monde de même. Et quand on mange vite, on s'expose quand même à des problématiques sérieuses.
À quoi?
Il y a 5 affaires auxquelles vous vous exposez. Première chose, puis vous n'allez pas pouvoir me contredire, des ballonnements. Parce que mastiquer, c'est la première étape de la digestion. De un, vous permettez à votre estomac de ne pas avoir à mastiquer à la place de votre bouche. Ça, c'est extraordinaire. Mais également, la salivation permet de donner un coup de main également à l'estomac pour digérer plus facilement les aliments, dont les glucides. Et ça, c'est bien important et je vais y revenir plus tard. Également, un coup de fatigue. Si vous mangez trop vite sur l'heure du dîner... Là,
ça, c'est vrai que ça fait ça.
Bang! Il arrive une heure, coup de barre. Pourquoi? Justement parce que l'effort est encore plus grand pour votre estomac. Puis c'est bizarre à dire, hein, mais l'estomac qui shake et qui défait votre nourriture, c'est très exigeant au niveau énergétique. Alors, si vous lui donnez pas une chance, ben toutes vos énergies vont s'en aller direct là. Et par rapport à ça, quand vous mangez un repas très, très copieux, là, vous allez peut-être remarquer, si vous avez une montre intelligente après dîner, votre rythme cardiaque va s'accélérer.
Ah, tellement!
Ben ça, ouais, c'est la preuve que c'est un effort considérable de digérer. Alors, tu sais, donnez-vous une chance, mastiquez comme du monde. Les troubles de l'humeur, et ça, appris ça ce matin, il y a 10% des neurones de notre corps qui sont dans notre intestin. Et si vous mangez trop vite, ben le passage dans l'estomac est plus long, donc vous allez avoir un déficit nutritionnel dans vos intestins, et à cause de ça, vous allez avoir un manque d'énergie, donc des troubles de l'humeur dans les 2 heures suivant votre repas. C'est quelque chose. Et aussi, la prise de poids, parce que encore là, vous allez avoir un déficit en énergie, vous allez aller chercher dans vos réserves et après, toute la quantité de repas va s'en aller dans votre système digestif et là, vous allez réabsorber ça en gras parce que votre corps va avoir réalisé qu'il avait un manque. Donc, son premier réflexe, c'est de faire des réserves pour la prochaine fois.
Okay.
Alors ça, c'est les 5 choses auxquelles vous vous exposez quand vous mangez trop vite. C'est malade, là. Puis, la seule solution, c'est de mastiquer. Y a-t-il un effort plus niaiseux que ça à faire dans la vie? Vous allez vous rendre service en mangeant comme du monde. Puis, tu sais, je veux dire... Prenez donc le temps, là. On est tellement pressé dans la vie ces temps-ci que je pense que c'est nous rendre service de au moins apprécier le fait d'être assis à table et de manger. Puis ce que vous allez goûter, là, lâchez votre téléphone puis regardez ce que vous mangez. Vous allez en retirer davantage de plaisir. On a tous déjà paranoïé d'avoir vu quelque chose dans la forêt quand on marche. C'est-tu un loup, c'est-tu un ours, c'est-tu ci, c'est-tu ça? Ça nous est tous déjà arrivé. Mais d'avoir peur de même, par exemple, pas certain.
Ça se passe en Pologne. Et c'est juste vous dire à quel point l'effet d'entraînement, des fois, peut être gigantesque. C'est une femme qui regarde par sa fenêtre, puis il y a un arbre devant sa fenêtre, et elle voit... un animal étrange à travers sa fenêtre dans l'arbre. Alors, elle se demande c'est quoi, ça bouge pas, c'est comme brun. Donc, elle s'inquiète, mais elle fait pas trop de cas. Puis, elle parle aux voisins, avez-vous vu ça dans l'arbre? Puis, tout, fermez vos fenêtres, tout d'un coup, ça vole, puis ça pourrait rentrer chez vous. Puis, donc là, après 2 jours de fixation sur l'animal dans l'arbre, on appelle la société protectrice des animaux, puis on leur dit, là, il y a quelque chose, je sais-tu, un oiseau de proie? C'est-tu un iguane, mais on veut pas que ça rentre chez nous. Les voisins sont en panique. On n'ouvre pas nos fenêtres. On a chaud, mais on attend. Alors, les inspecteurs arrivent sur place. Ils se rendent au pied de l'arbre et prennent le temps de regarder comme faut ce qui se trouve dans l'arbre.
Ouais.
Et dans leur rapport, ils mentionnent, en effet, c'est brun, mais ça n'a pas de tête, ça n'a pas de pattes.
Mais c'est quoi?
C'était un croissant. C'est un croissant dans l'arbre! La panique dans le voisinage pour un croissant. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, par exemple.
C'est un méchant gros croissant.
Il y a quelqu'un qui l'a lancé dans l'arbre. Oh là là!
Oh, le déjeuner qui vous veut du mal! On a tous déjà paranoïé. Moi, je me rappelle, on était allé faire du... en canot camping au parc national du Témiscouata. Ça venait d'ouvrir. Alors, tu sais, je veux dire, c'était nouveau puis c'était aménagé, mais c'était encore très sauvage, si tu veux. Puis, je pense que celle-là encore, là, en formule canot camping. Puis, on avait pogné une super belle journée d'été. Tu sais, là, 20, 25, fait Nous, on est comme deux pieds en canot en plus. Fait que, tu sais, on se faisait manger par les thons. On n'avait pas mis de crème solaire. Puis en canot camping, faut que tu amènes ta glacière puis ta tente dans ton canot. Fait que, tu sais, ça tangue. Fait qu'on a vécu des moments difficiles sur le lac. On arrive puis on est brûlé raide. Puis, tu sais, on profite de la journée un petit peu, mais il y a de la mouche, là. Puis on se met de l'huile à mouche puis on dit, hey, on peut pas passer une veillée. Il y avait interdiction de feu à ciel ouvert en plus. Fait que, tu sais, tu te ramasses dans la tente, tu bois ta petite bière dans la tente, puis là, l'orage pogne.
Ah!
Gros orage. Puis là, t'as une tente sur un petit deck en bois, parce que quand même, semi-aménagé, tu te dis, ça y est, la foudre va me pogner. Puis là, la pluie tombe, puis l'orage. Puis là, mané en pleine nuit, ah! Soulagement, la pluie cesse. Puis là, on entend des petits animaux venir gratter dans la tente. Et là, nous, tétanisé complètement. On est convaincu que c'est deux ours qui vont venir nous manger.
C'est toujours le pire. C'est toujours les ours. Ah, hein?
On a
ça.
Tellement pas dormi. Puis finalement, ça s'est passé. Puis si ça se trouve, c'était un oiseau qui picossait ou quelque chose. Ou, genre un écureuil ou une niaiserie de même. Mais je te dis qu'on n'a pas, passé nos trois jours là, finalement. On commence tranquillement, pas vite, à parler de la saison touristique chez nous et partout à travers le Québec. Parce que oui, ça se planifie. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, on aura avec nous Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent pour nous parler de notre été, parce que nous aussi, il faut être touriste chez nous, mais il faut s'y préparer. Et ce matin, je suis tombé sur un article très intéressant qui parle d'un homme de 76 ans qui s'appelle Aman Toulayev. Lui, c'est un des dirigeants régionaux très importants pour la Russie, particulièrement en Sibérie, qui était dans la garde rapprochée de Vladimir Poutine jusqu'à tout récemment.
Okay.
Et il faisait face évidemment à une baisse de tourisme en Sibérie. Puis en 2010, il a organisé ce qu'on appelle la Journée mondiale du Yeti pour coïncider avec l'ouverture de la saison de ski dans les montagnes de sa région. Puis, aujourd'hui, il annonce au New York Post, c'est lui qui est derrière l'invention de l'abominable homme des neiges. Parce que avant 2010, c'était pas très populaire, c'était une légende urbaine, mais particulièrement à partir de ce moment-là, avec quelques personnes dans son entourage, il s'est donné comme mission justement de s'approprier le Yeti, l'abominable homme des neiges, pour que ça mette sa place sur la map et que ça attire les touristes. Puis visiblement, ça a vraiment fonctionné. Parce qu'on parle de millions de personnes qui se sont mis à visiter la Sibérie par la suite à la recherche des traces de l'abominable homme des neiges.
Non, mais il existe pour vrai.
Ben, c'est ce qu'on pense. c'est ce que lui dit aussi. Il y a un festival du Yeti également. Il y a plein d'activités dans sa région par la suite. Mais là, il a dit que c'était secret jusqu'à tout récemment que c'était une organisation gouvernementale pour faire en sorte justement d'attirer du tourisme d'une certaine façon. Puis les légendes urbaines vont toujours être un vecteur d'intérêt également. Alors moi, je me demande ce matin, dans le Grand Rimouski, y a-tu une légende urbaine qu'on pourrait inventer? Par exemple, on parle beaucoup de Lucky ou encore de Barnabé. Est-ce qu'il pourrait y avoir un crabe géant ou encore un loup de mer comme on a présentement?
Ça serait pas bête. Ou un bateau fantôme sur le fleuve.
Un bateau fantôme. Amy, Amy, t'as quelque chose.
J'ai beaucoup d'imagination.
Ça pourrait être chaque soir de pleine lune, le bateau fantôme réapparaît parce qu'il est disparu en traverse. Ah non, je sais. Le bateau fantôme, on l'a, Amy, c'est le F.A. Gautier.
Ah, ben oui.
C'est même pas une légende, c'est la vérité. Mais je suis pas sûr que les gens vont venir ici en touriste pour le voir de leurs yeux vus. Vous avez certainement vu ça passer comme nouvelle sur Facebook au courant des dernières heures. Sinon, allez sur notre page Facebook 102.9 Rouge. Il y a un député libéral de l'Outaouais qui a été contraint de s'excuser parce qu'on l'a surpris complètement nu, flambant nu pendant la période des questions à la Chambre des communes. Évidemment, ça se déroule sur Zoom, là, la période de questions à la Chambre des communes pour éviter les contacts physiques. Will Amos, c'est un député de Pontiac qui affirme que sa caméra a été allumée accidentellement au moment où il enfilait ses vêtements de travail après avoir fait du jogging. Puis bon, il y a quelqu'un qui a pris une capture d'écran parce que c'était vraiment trop drôle pour être vrai. C'est un député, il était à la période de questions, il est flambant nu en arrière de sa chaise de bureau, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le contexte. Mm-hmm. Tu ne sais pas qu'il revient faire du jogging, puis tu te dis hey, il représente les citoyens, lui, puis c'est super sérieux, la Chambre des communes, quand même.
Ben oui.
Alors, il a vraiment été pris les culottes à terre, littéralement. Il cache ses parties avec son téléphone. Hein. On a toujours notre téléphone intelligent pas trop loin, heureusement. C'est juste la personne qui l'a qui est plus ou moins intelligente. C'est un accident, ça arrive, là, je peux comprendre, là, mais en même temps, à quel point ça pressait de faire ton jogging juste avant la période des questions? C'est la question que je me pose. Pour voir la photo, rendez-vous sur notre page Facebook. Nouveau info, Martin Brassard.
Oui, ne soyez pas trop étonnés là, si vous apercevez ou croisez un convoi de manifestants aujourd'hui dans notre région, c'est que les représentants des syndicats des travailleuses et travailleurs du secteur public affiliés à la CSN vont traverser la région là pour dénoncer la lenteur des négociations avec le gouvernement Legault. La CSN dit qu'ils représentent des membres du personnel des établissements de santé, établissements scolaires, cégep, aide juridique et traverse ce matin de Côte-Nord. Le convoi d'une dizaine de véhicules de représentants sera dans l'ouest du territoire en matinée avant de défiler à Rimouski entre 11h et midi. Des passages étant prévu devant l'hôpital de Cégep et l'école Paul-Hubert. Le groupe sera par la suite à Matane de 13h30 à 14h30, à Montjoly entre 15h30 et 16h et finalement à Amqui de 17h à 17h30. Le convoi passera devant la polyvalente, le centre de formation professionnelle et finalement l'hôpital d'Amqui. Ben, c'est plus d'un quart de la population adulte au Bas-Saint-Laurent qui a finalement reçu sa première dose de vaccin. Le CIS confirme que près de 52 000 résidents de la région ont été inoculés, soit 26,2% de la population. Comme annoncé par la PDG du CIS, Isabelle Malo, la semaine dernière, le Bas-Saint-Laurent a bel et bien rejoint, même surpassé la moyenne provinciale qui se situe à 24,5%. Plus de 2500 personnes supplémentaires seront vaccinées aujourd'hui. Il y a toujours quelques centaines de rendez-vous disponibles pour la vaccination AstraZeneca chez les 55 ans et plus. D'ici demain, près d'une centaine de places sont accessibles, soit dans la vallée de Matapédia ou encore 300 du côté de Rivière-du-Loup. Il y en a très peu ailleurs. De nombreux Québécois saluent bien évidemment cette volte-face de François Legault sur le port du masque à l'extérieur. Disons que ça faisait un peu plus de logique. Mmh. Il a précisé à des règles sur Facebook, ça c'est assez étonnant, là, en mentionnant qu'il fallait seulement le porter lorsqu'il est impossible de respecter la distanciation de 2 mètres. Vous pouvez donc jouer golf, tennis, marcher avec un conjoint d'une autre adresse sans masque. Pas mal certain que les gens le faisaient de toute façon.
Oui, c'est ça.
Aucune entrevue n'a été accordée là, sur le sujet par le gouvernement Legault. On est peut-être un peu gênés, hein, en tout cas. Le marché immobilier est toujours aussi actif depuis le début de 2021 au Bas-Saint-Laurent. Ça ne ralentit pas, les amis. Selon les chiffres de la firme GLR, 415 maisons unifamiliales ont changé de propriétaire au cours des 3 premiers mois de l'année. Une hausse de 44% comparativement à la même période l'an dernier. Les immeubles de 2 à 5 logements ont également la cote, 13 en demande, 67 transactions pour le premier trimestre 2021. Là, une augmentation de 60% comparativement à l'an passé. Par ailleurs, le prix médian d'une maison unifamiliale est de 155 000 $ au Bas-Saint-Laurent. Là aussi, une hausse de 7% cette fois par rapport à l'an passé. Ben, y a des médecins spécialistes qui éprouvent vraiment un profond, mais profond malaise à remplacer les infirmières des blocs opératoires qui, elles, sont envoyées en renfort dans les zones chaudes, particulièrement à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Bon, on manque d'infirmières dans ces zones-là. Alors, on les envoie, on les déplace de leur bloc opératoire vers les zones chaudes et on demande à des spécialistes, des médecins spécialistes, entre autres des chirurgiens, de remplacer les infirmières dans les blocs opératoires. Le problème, c'est que il y a une lettre d'entente qui assure un salaire de 211 $ de l'heure pour les remplacements en ce qui concerne les médecins. Ça représente 9 fois la rémunération des infirmières et infirmiers pour exactement le même travail. La mesure fait pas l'unanimité. Il y a des chirurgiens qui hésitent à se porter volontaire.
Ben oui.
On peut sans doute se faire un peu pointer du doigt. La Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, qui défend bien sûr les infirmières, estime qu'il s'agit carrément d'un manque de respect. C'est assez difficile entre vous et moi de pas être d'accord avec ça. Hein? Et du côté du sport, le Canadien a chopé une belle occasion de consolider sa place en série. Défaite de 4-1 contre les Flames. Il y en avait une mauvaise dans le système. Les deux équipes s'affrontent à nouveau demain soir.
Il y a le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Ça existe. On a fait une immense étude avant la pandémie pour essayer de dresser un portrait des facteurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on consomme des spectacles, qu'on va voir des spectacles? Et souvent, on a tendance à penser que c'est le fait qu'on va pas voir de spectacles, c'est à cause qu'on n'a pas d'argent. Et c'est totalement faux.
Ah,
les
ouais?
résultats de cette étude-là sont très, très surprenants et ça déboulonne certains mythes qu'on avait par rapport à la scène culturelle.
Ah,
par
oui?
exemple, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas une question d'argent si les gens vont pas voir de spectacle autant qu'on le voudrait, mais c'est plutôt, et ça c'est dommage, un manque d'intérêt.
Ah, ouais.
Parce que le premier constat, c'est qu'il y a un tiers de la population québécoise qui se rend à aucun spectacle dans l'année, et l'autre tiers, il va peut-être une fois ou deux voir un spectacle dans l'année. Donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne se déplacent pas dans les salles de spectacle. Uh-huh. Alors on doit des solutions, on doit en trouver. Évidemment, on doit essayer de susciter l'intérêt pour les salles de spectacle. Une solution qui s'est montrée efficace, c'est d'offrir des spectacles gratuits pour inciter les gens à se déplacer, à vivre une expérience et peut-être par la suite faire en sorte qu'ils paient pour avoir des billets.
Ouais, ça, c'est une arme à deux tranchants, Émilie, parce que si tu vois un spectacle gratuit, tu aimais ça, ouais. Vas-tu vraiment payer ensuite pour aller au spectacle? Je vais attendre qu'il y ait un gratuit. Là.
Surtout ouais. Si finalement l'enjeu n'est pas tant le prix. L'offrir gratuitement, est-ce que c'est vraiment la solution? Je sais pas.
En fait,
pas.
C'est pour susciter l'intérêt. Alors, ouais. C'est une solution qu'on avançait dans l'étude. Okay. C'est pas une question d'argent parce que parmi ceux qui vont voir des spectacles, il y a le budget qui se fait en fonction de ça. Mm-hmm. Souvent, si tu as envie d'aller voir des spectacles, tu vas te mettre des sous de côté pour aller à des festivals ou aller voir des humoristes, par exemple, en salle. Et aussi, on a tendance à penser que les jeunes ne consomment pas de spectacles beaucoup, sont plus sur leur téléphone ou sur YouTube.
Je suis pas certain de ça, moi.
C'est totalement faux. Ouais, hein? Les jeunes font partie des plus grands consommateurs de spectacles, autant intérieurs que extérieurs. Et les immigrants aussi ont envie de découvrir la culture.
C'est une bonne nouvelle.
Alors, ils sont très, très présents dans les salles de spectacle. Et ce sont des résultats quand même surprenants pour plusieurs. Mais il reste qu'il faut trouver une façon de rendre l'industrie culturelle intéressante pour les Québécois pour qu'ils puissent se déplacer, surtout après la pandémie.
Oui, ça, tu auras la crainte en plus, hein, Émilie, parce que se retrouver avec une gang de monde dans la même salle.
Non, c'est anxiogène.
Exactement.
C'est pas l'idéal non plus.
On a du travail à faire de ce côté-là.
Beaucoup, beaucoup.
Ben, s'il y a quelque chose de beau avec la pandémie, c'est que ça nous a permis de découvrir que les artistes étaient très créatifs pour permettre d'accéder de toutes sortes de façons à leur art. Peut-être que ça va susciter de l'intérêt également. Faut se rapprocher des gens, puis plus qu'on présente de l'art sous toutes ses formes, plus qu'on est intéressé par celle-ci, alors faut continuer d'en consommer de toutes sortes de façons. Puis éventuellement, je suis convaincu, on a tellement des belles salles de spectacle et des beaux agoras naturels ici que les gens vont finir par se présenter.
J'avais déjà parlé un peu plus tôt cette année que Claude Legault allait animer une série documentaire, mais on n'avait pas trop de détails concernant son animation, le propos. Finalement, là, on commence à avoir beaucoup plus de détails, même que c'est presque terminé là, pour ce qui est du tournage de cette série-là.
Ah ouais.
C'est une série qui s'appelle 39-45 en sol canadien. Ça va être présenté sur les ondes de TV5, une série de 13 épisodes consacrée, vous l'avez deviné, à la Deuxième Guerre mondiale, finalement. Mais comment est-ce qu'on l'a vécu au Canada?
Ah.
Il y a des personnalités connues qui vont témoigner, dont Jeannette Bertrand, David Suzuki, Micheline Langteau aussi. Mais on va aller dans des sujets un peu méconnus. Par exemple, on va se promener dans le Québec. On va passer par la Montérégie où il y avait un camp de prisonniers allemands.
Ah,
on va se rendre en Gaspésie pour rencontrer des gens qui ont vu les sous-marins allemands sillonner le fleuve Saint-Laurent. On va même suivre les d'agents secrets, parce qu'on formait des agents secrets au Canada pour être en mesure d'espionner puis d'enquêter sur la guerre et sur les ennemis. Et il y a même un agent secret qui était très populaire, qui a inspiré James Bond au cinéma.
Ouais, toi.
Alors, c'est le genre de choses qu'on apprend dans cette série-là qui promet d'être fort intéressante. Et c'est Claude Legault qui mène le bateau de la série. Alors, ça va commencer le 3 mai. C'est présenté sur les ondes de TV5. Après, le club Vinland, qui va être retiré des écrans de cinéma au Québec dès aujourd'hui pour être relancé plus tard. Il y a un autre film québécois qui retarde sa sortie. C'est le film Souterrain.
Ah,
ça fait deux fois qu'on veut le lancer, mais à cause de la COVID, c'est plutôt difficile. Et l'affaire là-dedans, c'est que on recule du côté des films québécois parce que la nouvelle règle de distanciation dans les salles, c'est vraiment ça qui cause un problème, parce que là, ça fait en sorte qu'il y a quand même moins de monde qui peuvent entrer dans les salles de cinéma. Puis ça se répercute directement là, sur les coûts et évidemment sur les recettes qu'on peut faire au box-office. Alors, on a hâte quand même de voir ce film-là qui se passe dans une mine d'Abitibi, alors que c'est un jeune mineur d'une vingtaine d'années qui est nouvellement diplômé en sauvetage, qui se voit forcé de descendre sous la terre pour aller sauver les siens suite à une explosion. Et durant le film, là, on fait des retours en arrière, puis on voit à quel point il s'était lié d'amitié avec ses collègues, avec sa famille aussi, qui l'attend en haut, là, les relation qu'il a. Alors, c'est un film qui me semble très, très intéressant. Donc, on a hâte de le voir, évidemment, dans les salles de cinéma, mais on va attendre encore un petit peu avant de le présenter. Triste nouvelle que l'on a appris hier, celle du décès d'un grand gentleman, hein, Michel Louvain, qui est décédé hier des suites d'un cancer de l'œsophage. On avait appris au début du mois d'avril qu'il avait été hospitalisé justement pour faire soigner son cancer. Et bon, il est décédé au cours de la journée d'hier, là, en fin de journée. Alors, évidemment, depuis ce moment, les hommages se multiplient de par plusieurs célébrités, par voie de communiqué ou encore via les réseaux sociaux. Il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui a dit que le Québec perd une idole qui a marqué plusieurs décennies. La chanteuse Renée Martel, qui a côtoyé Michel Louvain pendant plusieurs années, parle de ce dernier comme un ami extrêmement précieux. Mario Pelchat, qui a collaboré avec Michel Louvain durant une tournée de spectacle qui rendait hommage à Charles Aznavour, a été très beau bouleversé par son décès. Il avait même prévu, une fois la pandémie terminée, revenir sur scène ensemble.
Wow.
Alors, évidemment, ouais. c'est un gros morceau. Hein. C'est un grand gentleman que le Québec perd. Il y a la ville de Brossard, qui est la ville natale de Michel Louvain, qui a d'ailleurs annoncé que les drapeaux de la ville allaient être en berne aujourd'hui, suite au décès du chanteur. Alors, c'est une grande carrière. 60 ans de carrière, il a gardé un public fidèle pendant des décennies, M. Louvain, qui s'est éteint à l'âge de 83 ans.
Hey, tu sais, je veux dire, faut le faire. Pendant 60 ans, faire de la musique et continuer d'avoir un public qui te suit comme ça, puis de traverser les époques, puis continuer d'avoir du succès. Chapeau à M. Louvain, il va certainement manquer à toute la colonie artistique et il a certainement été d'une grande inspiration pour beaucoup d'entre eux. J'ai mis dit quelque part
que le diable l'emporte. Vous connaissez cette populaire chanson de Caïn et on a décidé de pousser le concept encore plus loin de la chanson « Il est midi quelque part » pour vous présenter une bière « Il est midi quelque part
bon. ».
D'ailleurs, sur la canette, vous voyez les gars de Caïn.
Ah, wow! J'ai toujours rêvé de boire Steve Veilleux.
Eh ben là, c'est ta chance.
Oui.
On vous offre une bière artisanale, une blonde ale offrant un goût et des arômes des plus prononcés et satisfaisants.
Alors, ah oui?
Une description plutôt assez floue, disons. Elle s'est faite par la microbrasserie Saint-Arnoult de Mont-Tremblant. En fait, c'est une des premières microbrasseries au Québec qui souligne d'ailleurs cette année ses 25 ans.
Ah ouais.
Et on a décidé de travailler fort, évidemment, avec la gang de Caïn pour vous offrir cette bière-là qui se retrouve déjà dans quelques épiceries au Québec. Là, mais si jamais ce n'est pas encore rendu chez votre épicier, ça s'en vient au cours des prochains jours. Donc, c'est ça, c'est pas la première fois qu'un groupe ou qu'une personnalité se lance dans la bière ou la bouffe.
Hein, ben non.
Peter McLeod qui a fait de la pizza.
Ben oui,
temps-ci.
Écoute, ça, je comprends toujours pas.
Grand mystère.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est particulier, ils célèbrent leurs 25 ans, puis
oui.
Ben honnêtement, je suis quand même familier avec l'univers des bières, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Alors, je suis curieux de connaître la bière qu'ils ont fait, puis si c'est des chums de la gang de Caïn, alors tant mieux, ben je leur souhaite un bon succès. Ça va se boire, j'en suis convaincu. On va se retrouver demain avec vos billets pour le Lido, et également, Amy, comme c'est vendredi, on se fait plaisir!
Oui, demain, c'est le quiz malpropre! Ah. Yes!
Une bonne vieille habitude! Des questions auxquelles on préférerait ne pas connaître les réponses. Martin, à surveiller dans l'actualité?
Oui, ben 14e présentation d'un événement extrêmement populaire, mais qui malheureusement, s'est adapté, là, devient virtuel. C'est le Marcheton de la dignité au profit de la Fondation de la Maison Marie-Élisabeth. Alors, il y en aura un cette année, mais dans une formule un peu particulière. On aura tous les détails ce matin. On vous tiendra au courant lors de nos bulletins de ce midi, de cet après-midi, puis également sur nos médias sociaux.
Passez une excellente journée. Profitez du soleil si vous pouvez. Et à demain! On est tous debout! Rouge.